journal des sciences.
Et pour commencer ce journal, une étude très remarquée qui a été publiée lundi dans le journal, dans la revue The Lancet, qui affirme qu'un décès sur 6 aux États-Unis serait attribué au plomb.
Oui, alors autant dire que cette étude épidémiologique est très solide méthodologiquement, crée la surprise, voire on peut le dire carrément la stupéfaction, parce que cette estimation, donc un décès sur 6, est énorme, bien supérieure à toutes les précédentes estimations sur la létalité du plomb. Aux États-Unis, les maladies cardiovasculaires sont en diminution, mais elles demeurent la première cause de mortalité, mais la part attribuable aux expositions au plomb dans ces décès aux États-Unis n'avait jamais été étudiée sérieusement. L'équipe canadienne qui signe cet article l'a fait. Entre 1988 et 1994, les chercheurs ont rassemblé un effectif de 14 000 personnes de 20 ans et plus au sein d'un échantillon qui est représentatif de la population américaine. Ils les ont suivis jusqu'à l'année 2011 et ils ont renseigné le taux de plomb présent dans leur sang, y compris quand il était plus faible que 5 microgrammes par décilitre, parce que c'est ce taux-là qui est aujourd'hui considéré comme toxique. Et alors, The Lancet publie ses résultats, accompagnés d'un article de l'épidémiologique, mais c'était
épidémiologique.
Merci beaucoup.
C'est le public qui vous rend nerveuse. Oui.
Philippe Landrigan, qui travaille à l'école de médecine de l'hôpital du Mont Sinai à New York, et lui, il considère véritablement que cette étude représente un tournant.
The way they did their study was they...
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé sur des données de très haute qualité collectées auprès de 14 000 adultes pendant plus de 20 ans par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Ils ont regardé d'une part le taux de plomb dans le sang détecté chez les sujets et ils l'ont rapporté au risque de développer des maladies cardiovasculaires ou une insuffisance rénale. Et ils ont découvert qu'il y a une corrélation évidente entre le taux de plomb et le risque de développer ces maladies. Plus ce taux est important, plus le risque est élevé. Et le lien est évident, même à des taux très faibles de plomb dans le sang. C'est une découverte très importante qui va dans le sens des rapports de l'OMS, qui nous dit depuis plusieurs années qu'il n'existe pas de niveau non toxique de plomb dans le sang. Le seul taux non toxique de plomb dans le sang, c'est zéro. Et ce qu'il y a de plus surprenant dans ces résultats, c'est l'ampleur du phénomène. Nous savions que le plomb est toxique pour le cœur, pour les vaisseaux, chez les jeunes enfants, mais cette étude confirme que c'est vrai, même à des taux d'exposition très faibles.
Et au total, cette étude estime que près de 400 000 décès seraient imputables au plomb chaque année aux États-Unis.
Oui, alors un chiffre qui décuple très clairement les estimations précédentes. À titre de comparaison, l'étude annuelle sur le fardeau mondial des maladies pour 2015 évaluait à 558 000 décès, donc 600 000 décès au niveau mondial de la mortalité attribuable au plomb, et ne prenait en compte d'ailleurs que les morts adultes. Alors la létalité du plomb, avec cette étude, elle devient aussi importante que celle du tabac, par exemple, ou que celle de la sédentarité, et elle confirme évidemment des intuitions scientifiques, on l'a compris, mais il faut absolument que ces conclusions soient désormais appuyées par d'autres études, estime Philippe Landrigan, très rapidement pour donner du crédit à ces résultats et pour enclencher vraiment au plus vite des politiques publiques.
Bien sûr, ce sont des résultats que les gens vont questionner en disant « Mais comment un phénomène d'une telle ampleur a-t-il pu être ignoré pendant si longtemps ?» Les sceptiques nous diront que les études de population ne prouvent jamais rien. Mais je pense que c'est une position intenable. C'était d'ailleurs celle de l'industrie du tabac pendant de longues années, face aux chiffres sur les cancers du poumon. Il est évidemment capital que d'autres études examinent cette question. Mais si cette découverte devait se confirmer dans les années qui viennent, elle aurait de grandes conséquences sur la manière dont on organise la prévention des maladies cardiovasculaires. Et puis, il faut rappeler qu'au cours du siècle dernier, l'utilisation du plomb a augmenté de manière exponentielle. Il est présent absolument partout dans la biosphère. La principale source de plomb a pendant longtemps été l'essence. Ce n'est plus le cas, mais on trouve aujourd'hui du plomb partout, dans les batteries de voitures, dans les cosmétiques. Et cette étude nous rappelle que nous ne sommes pas biologiquement équipés pour supporter une telle exposition. Nous devons trouver des alternatives non toxiques au plomb et amorcer une politique très agressive pour diminuer drastiquement cette pollution partout dans le monde.
En bref, maintenant, l'épidémie de rougeole progresse de manière inquiétante en France à cause, évidemment, d'une trop faible couverture vaccinale.
La semaine dernière, déjà, on avait des chiffres assez inquiétants pour la Roumanie et l'Italie en particulier, mais la France, évidemment, est concernée avec 913 cas de rougeole depuis novembre dernier, novembre 2017, contre 519 sur toute l'année 2017, ce qui laisse craindre, dans les mois à venir, une épidémie beaucoup plus large. La rougeole pour laquelle, je le rappelle, il n'existe pas de traitement, peut, dans les cas les plus graves, entraîner des complications respiratoires ou neurologiques, et 9 malades sur 10 depuis novembre sont des personnes qui ne sont pas ou qui sont incomplètement vaccinées.
les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la dépression.
Car il existe une expression génétique différente de la dépression chez les hommes et chez les femmes. C'est ce qu'indique une étude parue dans Biological Psychiatry, qui a travaillé sur le cerveau de 100 malades décédés qui souffraient de dépression sévère. Eh bien, cette étude constate que les mécanismes moléculaires qui donnent lieu à la dépression sont tout à fait différents chez les femmes et chez les hommes. Les auteurs soulignent que pendant trop longtemps, les études neurologiques sur la dépression ont été menées uniquement sur des hommes, c'est le cas sur plusieurs maladies, et rappellent la nécessité donc de travailler sur de nouveaux traitements adaptés aux deux sexes.
Et pour notre deuxième sujet cette semaine, grâce au télescope satellitaire Hubble, des chercheurs ont identifié pour la première fois une galaxie relique située dans la constellation de Persée et donc observable. C'est quoi une galaxie relique, Zoé ?
Eh bien, elle s'appelle NGC 1277. Elle est née dans l'univers primitif, c'est pour ça qu'elle est une relique. Elle a été très active pendant très longtemps, mais elle a complètement cessé d'évoluer il y a 10 milliards d'années. Alors, ça faisait des années que cette équipe de l'université de Laguna, en Espagne, tentait d'identifier une galaxie relique. On n'en avait pas observé réellement jusqu'ici, suffisamment proche de nous, il fallait qu'elle soit pour qu'on puisse la voir. NGC 1277 fait partie des candidates potentielles, mais pour être certain de son statut de relique, pour prouver que son activité avait s'était arrêtée, eh bien, il fallait regarder la couleur de ses amas globulaires. Et c'était ça la preuve déterminante, et c'est grâce à Hubble qu'on a pu le faire, m'expliquait Michael Beasley, c'est le principal auteur de cette étude.
Il existe deux types de populations d'amas globulaires. Les premiers sont rouges, ils contiennent beaucoup de métaux lourds, notamment du fer. Les autres sont bleus car ils contiennent beaucoup moins de métaux. Or, nous savons que ces amas globulaires rouges se sont formés en même temps que les toutes premières galaxies. Ensuite, le temps passant, les galaxies ont évolué et sont devenues plus massives en assimilant ou en mangeant des galaxies plus petites. Et se sont alors formés des amas globulaires bleus pauvres en métaux. Dans le cas de cette galaxie, nous avions déjà plusieurs éléments qui nous laissaient penser qu'elle était une relique, c'est-à-dire qu'elle était née très tôt, mais avait cessé de se développer, et qu'elle n'était pas parvenue à cannibaliser ses satellites. Mais pour le vérifier, il nous fallait prouver qu'elle avait donc peu ou pas d'amas globulaires bleus, qui sont les témoins d'une activité récente. Pour cela, nous avions besoin de Hubble et de sa très haute résolution, car cette galaxie reste assez distante. Elle est située dans la périphérie de la constellation de Persée, à plus de 200 millions d'années-lumière de nous. Et nous avons pu observer qu'il n'y a chez elle que des amas globulaires rouges. Nous l'avions prédit, mais ça reste une surprise, car jamais au cours de ma carrière, je n'avais observé de galaxie sans aucun amas globulaire bleu. Nous allons pouvoir l'étudier de près et comprendre pourquoi elle n'est pas parvenue à absorber d'autres galaxies.
En bref, Donald Trump veut créer une armée de l'espace, une Space Force.
Et oui, lors d'une visite mardi à la base aérienne de Miramar, le nid d'élite de l'Air Force américaine, Donald Trump, qui est commandant en chef des armées américaines, a souhaité qu'une nouvelle force soit créée, donc à côté de l'US Army, de l'US Navy, de l'US Air Force, du corps des marines et des gardes-côtes américains. C'était une vieille proposition qui avait été formulée au début par Reagan. Ma nouvelle stratégie de sécurité reconnaît que l'espace est une zone de combat, nous dit Donald Trump, tout comme la terre, le ciel et la mer. Et ce, il faut le rappeler, dans un contexte où la Chine a récemment lancé un missile sur ses propres satellites depuis la Terre.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, on peut agresser quelqu'un avec un sourire.
Mais oui, je suis sûre que vous le faites régulièrement vous-même, Nicolas Martin.
Pas du tout, mes sourires sont entièrement ingénus, voyons.
Toujours ingénus. Alors justement, c'est intéressant, car c'est une étude qui a été menée par des psychologues américains et israéliens, qui a regardé un peu nos réactions au sourire et qui a réussi à identifier trois types de sourires. Il y a le sourire de récompense, Nicolas, ce fameux sourire que vous donnez à quelqu'un pour lui dire que qu'il vous rend heureux, que vous êtes heureux d'être en sa compagnie. Il y a le sourire d'affiliation, vous ne me connaissez pas très bien, mais vous essayez de créer un lien avec moi, de montrer que vous n'êtes pas une menace pour moi. Et il y a le sourire de dominance, nous dit cet article. C'est un sourire lié au pouvoir, au statut. Et ce sourire, c'est ce sourire, vous savez, angoissant de votre boss, ce sourire angoissant de Kim Jong-un, par exemple. Et l'étude prouve que nous comprenons très bien que ce n'est pas vraiment un sourire. Elle a étudié les réactions de 80 étudiants masculins qui devaient donner une présentation orale devant une webcam à des juges, avec d'autres camarades de classe qui participaient à cette étude. Et pendant ces présentations, ils ont surveillé la fréquence cardiaque des présentateurs et prélevé leur salive pour notamment détecter la présence de cortisol, cette hormone qui est née au stress, qui est liée au stress. Alors constat, quand ils recevaient des sourires de dominance qu'ils interprétaient comme négatifs et en fait critiques, les présentateurs ressentent plus de stress, leur niveau de cortisol monte énormément. D'un autre côté, quand ils reçoivent un sourire de récompense, eh bien évidemment, cet indicateur-là descend. Mais là encore, comme notre étude sur la dépression, on peut pas tout à fait généraliser cette étude parce qu'elle n'a été menée que sur des hommes et que la présomption de ces psychiatres, c'est de dire que les femmes probablement réagissent. réagirait différemment face à ces types de sourires.